1 Samuel au chapitre 3 et au verset 19. Je vous encourage d'ailleurs à prendre note des versets que nous allons partager pendant ces 4 ou 5 mardis de suite. Ces versets, certaines paroles que je vais peut-être même pouvoir vous dire, je pense que c'est bien que vous les notiez. On ne peut pas tout retenir et il est souhaitable. Je pourrais vous faire une photocopie, mais je préfère que vous notiez vous-même les choses, que vous notiez des paroles qui vous ont peut-être encouragé, repris. Je pense que c'est bien. Regardez ce qu'il nous est dit de Samuel, cet homme qui est devenu vraiment un instrument entre les mains de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Et c'est par rapport à ce qui est écrit que je vous encourage à prendre des notes, parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas tout retenir, mais il y a des choses qui nous ont interpellés, et ça vaut la peine de les noter et de les reméditer dans votre culte personnel. C'est vraiment quelque chose, j'en suis persuadé qui est vraiment, vraiment très important. Voilà, c'est une introduction à ce que j'ai appelé dimanche la guerre spirituelle, parce qu'il y a un combat spirituel. Il y a une guerre spirituelle. Alors j'ai expliqué que beaucoup de chrétiens n'arrivaient pas à comprendre cela. C'est à nous de vous l'expliquer, parce que la simple raison, c'est qu'ils ne sont même pas eux, déjà les chrétiens, rentrés dans le service. Ça fait qu'ils ont énormément de mal à comprendre qu'il y ait une autre dimension que le service dans l'église, car aujourd'hui les églises se bornent beaucoup à du travail social. Si vous demandez à 100 personnes dans le monde c'est quoi l'église, eh bien l'église, voilà, on donne des sandwichs aux pauvres, voilà, c'est pas ça l'église. L'église, c'est une armée d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit qui cherchent à plaire à Dieu. Et regardez comment Samuel était. 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait. Bien sûr que ça pourrait être dit de tous les hommes, mais vous comprenez bien que ça fait allusion à sa croissance spirituelle. D'ailleurs, on peut le lire facilement, lorsque au verset 21 du chapitre 2, c'est écrit. Regardez bien, c'est pour que nous apprenions à comprendre la portée de ces choses. « Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, elle enfanta 3 fils et 2 filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. » Les autres aussi grandissaient, vous inquiétez pas, ils grandissaient physiquement, psychiquement, psychologiquement, intellectuellement, mais là, il nous est dit qu'il grandissait auprès de l'Éternel. Et quand au chapitre 3, verset 19, il nous est dit qu'il grandissait, c'est parce qu'il y avait une croissance spirituelle, et c'est ce que nous voulons. Je pense que nous voulons grandir spirituellement. C'est votre désir, mais vraiment quelque chose de profond, de dire, moi je veux faire des progrès en 2014, le 31 décembre, je ne veux pas être comme le 29 janvier, c'est hors de question. Je veux avoir grandi. Alors qu'est-ce qui se passait? L'Éternel était avec lui. Pourquoi l'Éternel était avec lui? Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Et je crois qu'il y a des paroles que Dieu nous adresse. Dans une soirée comme celle-ci, il peut y avoir dans la prédication 2, 3, 4, 5 paroles que vraiment Dieu va vous adresser. Si vous ne les marquez pas, il y a de très très fortes chances que vous les oubliez. Vous savez ce que Jésus a dit dans la parabole du semeur? Il dit voilà, après le diable il vient et il enlève ce qui a été semé. Nous ne pensons pas être meilleurs que les autres si nous notons, si nous disons cette parole j'en avais besoin. J'ai besoin de la méditer s'il le faut toute la semaine jusqu'à notre prochain culte à l'église. Mais dans mes cultes personnels, je vais méditer ces choses. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. C'est clair que ça change des fils de Phiné, de Élie, qui eux, ils écoutaient les mêmes paroles, croyez-moi. Mais eux, je peux vous dire qu'il les laissait tomber. Regardez, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi comme prophète de l'Éternel. Est-ce que vous aimeriez, mes frères et sœurs, que dans la ville de Toulouse, pas par orgueil, mais surtout pas par orgueil, parce que là on est cuit d'avance, mais par pour le salut des âmes, que notre Église soit reconnue comme une Église scripturaire, biblique. Est-ce que vous aimeriez? Eh bien, ça dépend de notre soif et de notre obéissance à la parole de Dieu. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, parce qu'il y avait l'arche de l'Éternel, il y avait la présence de Dieu, car l'Éternel se révélait à Silo, à Samuel, dans Silo, par la parole de l'Éternel. Nous voulons que Dieu se révèle, nous voulons que Dieu nous parle, il le fera par sa parole. N'attendons pas des anges qui viennent nous voir, Dieu se révélera par sa parole. Quoique, Dieu peut envoyer un ange, Dieu peut nous parler d'une façon ou d'une autre, ça j'en suis convaincu, mais commençons par le début. Si nous n'écoutons pas la parole, le Seigneur ne fera pas des choses merveilleuses. Se révéler par la parole de l'Éternel. L'autre texte qui nous préoccupe, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est dans 1 Pierre au chapitre 5. Dans 1 Pierre au chapitre 5. Prenez l'habitude de prendre un carnet avec vous, je vous le dis, pas parce que je veux que vous preniez des notes, mais parce que je sais que ça contribuera à cette croissance spirituelle. Dans 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 6, Il nous est rappelé l'importance de nous approcher de Dieu et de savoir faire quelque chose. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Il est dit juste au-dessus que Dieu fait grâce aux humbles et qu'il résiste aux orgueilleux. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Donc, qu'est-ce qui nous est demandé ? De résister au diable avec une foi ferme. Est-ce que vous êtes conscient que l'ennemi, le prince de la puissance de l'air, est un ennemi rusé qui a des millénaires d'expérience pour nous piéger et pour nous tromper et pour nous amener à connaître que la défaite ? Alors, c'est vrai que dans l'Épître aux Éphésiens, puisque c'est le sujet qui va nous préoccuper pendant les 4 ou 5 mardis qui suivent Dieu voulant, dans l'Épître aux Éphésiens, cette épître que je vous encourage à méditer, pas à la lire, à la méditer pour voir en crescendo quel est tout l'enseignement de ce qui se passe lorsque nous sommes en Jésus-Christ. À la fin de ce chapitre, il y a toute une vérité dont l'Église a absolument besoin. Bon, tout ce qui est écrit dans la Bible, l'Église en a besoin. Est-ce que vous croyez, vous, que l'Église a besoin de tout ce qui est écrit dans la Bible ? C'est évident. Mais quand on le dit, on comprend qu'il faut prendre au sérieux tout l'enseignement de toute la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, qu'est-il dit ? Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, après tout ce qui a été vu, tout ce qui a été compris, tout ce qui doit être vécu, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Voilà, ça c'est une vérité que l'Église a vraiment besoin de comprendre. Et je suis persuadé, hélas, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce combat spirituel. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne prient pas ou prient. Ils ne savent pas si quand ils prient, ça s'arrête au plafond, si Dieu entend. On en est là, dans le mouvement de Pentecôte, où il y a des chrétiens qui ne savent pas si Dieu les entend lorsqu'ils prient. Est-ce que Dieu m'entend ? Est-ce que vous croyez que Dieu m'entend quand je prie ? Moi, j'entends ça. Dans l'Église, ça fait quand même mal au cœur. Ce qui prouve que beaucoup de chrétiens n'ont pas de communion avec Dieu. Ils sont dans une piété vraiment de façade. C'est vraiment terrible. Parce qu'ils n'ont pas compris que tout ce qui est écrit est important. Cette épître, bien sûr, concerne le corps de Christ. Moi, j'ai mis dans un titre « En Christ », parce que, vous allez voir, revient souvent cette expression d'être en Christ. C'est vrai qu'une des ruses du diable, ça c'est clair, c'est facile à comprendre, c'est l'ignorance. C'est pour ça que c'est bien de prendre des notes. Une des ruses du diable, c'est l'ignorance. Je vous assure, moi je vois des chrétiens qui ont 5 ans, 6 ans, 10 ans de conversion, qui sont de véritables bébés spirituels, parce que justement, ils n'ont pas pris à cœur les choses, ils n'ont pas noté les choses, ils n'ont pas eu soif de la parole de Dieu, ils l'ont chanté, mais ce n'était pas vrai. Tandis que quand quelqu'un a soif, il dit « moi je veux apprendre ». Et je peux vous dire que celui qui va apprendre, Dieu l'enseignera, croyez-moi. Donc, une des ruses du diable, c'est qu'on soit dans l'ignorance. Par rapport à l'espérance, par rapport à plein de choses. Mais quand on est dans l'ignorance quant au combat spirituel, je peux vous dire qu'il a quelques longueurs d'avance. Donc tout ce que nous avons besoin, ce dont on a besoin, est expliqué dans les Écritures. Il faut que nous le comprenions bien. Il y a des choses où on n'en a peut-être pas écrit, parce qu'on n'en a pas besoin. Mais tout ce dont on a besoin est écrit dans les Écritures. Alors si les chrétiens sont aveuglés à cause de l'ignorance, ils vont être en désaccord avec la pensée de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'avancent pas, ne font aucun progrès. Ils restent dans l'ignorance, ils n'ont pas pris le temps. Ce n'est pas dû qu'aux chrétiens. Je pense que c'est dû à nous les pasteurs aussi. Qu'on n'a pas peut-être pris le temps d'enseigner des choses qui sont essentielles à l'œuvre de Dieu. Mais comme les gens sont dans l'ignorance, ils ne sont pas en accord avec la pensée de Dieu, donc Dieu ne peut pas les exaucer, mis à part la grâce qu'il accorde à tous ses enfants. Ne vous inquiétez pas, Dieu fait grâce. Mais Dieu veut donner plus que sa grâce. Dieu veut manifester sa puissance. Est-ce que vous le croyez que Dieu veut manifester sa puissance? Alors, c'est vrai que Dieu fait grâce. Ça, c'est clair. Même si on n'obéit pas, je sais de quoi je parle. Dieu peut faire grâce. Mais Dieu ne veut pas manifester sa grâce. Dieu veut manifester sa grâce et sa puissance. Et sa puissance, il ne la manifeste pas n'importe comment. C'est pour ça que l'ennemi se frotte les mains lorsque les chrétiens vivent dans la désobéissance en pensant que tout va bien, parce que Dieu ne peut pas agir. Il agit, je le répète, je ne vais pas répéter ça tout le temps, il agit bien sûr parce que Dieu fait grâce comme nous on fait grâce à nos enfants, même s'ils n'obéissent pas. Mais il y a certaines choses que nous ne donnerons pas à nos enfants de toute façon s'ils ne nous obéissent pas. Et c'est pareil avec Dieu. Alors, en plus, les temps dans lesquels nous vivons sont méga difficiles, vous êtes d'accord avec moi, les temps dans lesquels nous sommes sont extrêmement compliqués. Grave à tous les niveaux. Regardez ce qui se passe même au niveau du chef de l'État, ça fait pitié vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment pitié. Et ce sont des temps difficiles qui nous montrent que les ténèbres s'épaississent, ce qui prouve ce qui est écrit, que les chrétiens sont de plus en plus dans la confusion. Car pour ceux qui découvrent l'Évangile, regardez ce qui est écrit dans 2 Timothée au chapitre 3. Ce sont des choses que vous connaissez, mais ça révèle ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer dans les derniers temps. Et je vous assure que moi, je suis un petit peu estomaqué quand je vois la quantité de chrétiens qui peuvent se retrouver là-dedans. Parce que c'est à des chrétiens que Dieu parle, ce n'est pas aux inconvertis. Parce que les inconvertis n'ont pas l'apparence de la piété, ils n'ont pas de piété du tout. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, ce sont des textes que vous pouvez lire, ça vous aidera à comprendre tout ce que nous allons voir dans ces 5 ou 6 mardis qui vont suivre. 2 Timothée 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ce n'est pas un problème ça, l'égoïsme ? L'égoïsme. Mais est-ce que vous vous rendez compte que même dans l'Église, il y a des gens qui ne font rien, rien pour Dieu ? C'est l'égoïsme. Quand on aime Dieu, on a envie de faire quelque chose. Oui ou non ? Moi, ça m'inquiète. Je vous assure, ça ne m'inquiète pas pour moi. Ça m'inquiète pour ces gens. Ah, j'ai pas le temps. Mais ils ont le temps pour passer 3 heures sur la PlayStation, ça c'est sûr. Mais ils n'ont pas 2 heures pour aller visiter une grand-mère qui a besoin d'être visitée. En plus, ils ont le culot de dire, mais ça c'est à vous, monsieur Gaud, d'y aller. Moi, je veux vous dire, dans la Bible, c'est pas aux pasteurs d'aller faire les visites, à part des visiteurs archi-importantes. Je crois que la véritable religion consiste à visiter les veuves et les orphelins. Ça, c'est la religion pour tous. Cette religion qui nous parle d'être vraiment reliés au Seigneur. Les hommes seront égoïstes. Et il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont égoïstes. C'est pour ça que moi je dis aux jeunes égoïstes, mais ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas parce que votre couple, il va exploser. Quand un homme n'est pas capable, ou une femme n'est pas capable de se donner à son conjoint, il vaut mieux pas se marier, croyez-moi. Et les jeunes qui sont là, je vous le dis. Si vous êtes égoïste, moi je vous le dis, ne vous mariez pas. Parce que ça ne marchera jamais. L'égoïsme, c'est le contraire de la vie chrétienne. C'est vraiment, ça détruit l'œuvre de Dieu et ça détruit les foyers. Amis de l'argent, fanfarons, je ne vais pas m'arrêter sur chaque mot, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est pas la marque de beaucoup de chrétiens, ça ? Qu'ils aiment plus la télé, ils aiment plus le sport, ils aiment plus ceci ou cela que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce qui fait la force de la piété, c'est la sainteté et une vraie repentance lorsqu'elle est nécessaire. Parce que la repentance, ça vous amène à prendre une décision qui va vous amener dans la bénédiction. Les gens confondent beaucoup le regret et la repentance. Oh, je regrette, c'est pas bien, j'ai péché, j'ai encore fait ci, j'ai encore dit ça, j'ai encore mal parlé. Et 3 heures après, ou le 3 jours après, ils recommencent. Et ils pensent mais ils ne se sont pas repentis. Ils ont regretté. Jésus n'a pas dit regretter, il a dit repentez-vous. Ce qui fait la force de la piété, c'est une véritable repentance. Croyez-moi, mes frères et sœurs. C'est important de dire ces choses, parce que c'est un sujet très sérieux qu'on va aborder, que vous n'avez peut-être pas réalisé. En tous les cas, l'Église, elle doit se préparer. On se prépare. Moi, j'ai été engagé, quand j'étais jeune, je me suis engagé dans une compagnie de combat, et je peux vous dire qu'il y a eu des mois de préparation pour arriver à être ce qu'on appelle opérationnel. Croyez-moi, quand on vous envoie sur un terrain de guerre, je peux vous dire que vous avez quelques mois de... Et là, c'est pareil. Si nous, c'est pas physique, c'est pas contre les gens, c'est spirituel, mais ça fait rien. Toute la Bible nous enseigne que l'Église doit se préparer. Est-ce que c'est écrit « Préparez le chemin du Seigneur » ? C'est écrit, et les gens ne se préparent pas, ils vont à l'église comme ils vont au cinéma, ils vont à l'église comme ils vont au restaurant, tiens, c'est sympa, je vais voir Julie, je vais voir M. Valette, c'est sympa. Bien sûr qu'il y a la notion de la communion fraternelle, mais il y a une guerre. Mes frères et sœurs, vous l'avez lu avec moi, il y a vraiment une guerre. C'est vrai que pendant longtemps j'ai parlé sur le repos, et c'est vrai qu'il y a un véritable repos. Et je pense que quelqu'un qui est vraiment dans le repos, il peut vraiment se battre, spirituellement. Et c'est parce que l'ennemi nous maintient dans la défaite que nous ne pouvons pas saisir cette dimension du combat spirituel. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui prient dans les églises, parce qu'ils n'ont pas saisi la dimension du combat spirituel. L'église doit se préparer, mais elle doit se préparer pas n'importe comment, avec une foi vivante, parce que la foi, elle peut être morte. On peut croire des choses intellectuellement et ne pas les vivre. On peut croire des choses et même les prêcher, et même les enseigner avec ferveur, les chanter, tout ce que vous voudrez, mais ne pas les vivre. Et on va voir que tout ce qui est important dans ce qu'on va expliquer passe par l'expérience. Alors, qu'avons-nous compris du combat spirituel ? Ce serait intéressant de donner une feuille à chacun et que vous répondiez « Qu'est-ce que j'ai compris, moi, du combat spirituel ?» Dimanche, j'y ai fait allusion lorsque Déborah, dans son cantique, vous rappelez qu'elle écrit dans son cantique pour Dieu « Des cieux ont combattu ». Cette femme, elle s'est levée, elle était en communion avec Dieu et elle savait que dans le ciel, on combattait pour l'œuvre de Dieu, on combattait pour elle. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Que du ciel, on combatte pour vous ? C'est ça ? C'est ça ? C'est Dieu qui combat pour vous, parce que le bon combat de la foi, il est appelé bon parce que c'est Dieu qui combat pour vous. Sinon, ça serait appelé un mauvais combat. Et beaucoup de chrétiens devraient dire, mais moi, le combat que je mène, c'est un mauvais combat. Parce que si Dieu nous demande d'appeler le bon, ou certaines versions, le beau combat, c'est parce que c'est Dieu qui combat à notre place. Alors, nous sommes dans une société, dans un monde où le péché règne partout. Le diable est appelé le prince de la puissance de l'air, et on pourrait prendre tous les textes, on le fera peut-être petit à petit, mais le péché règne partout. Nous ne devons pas nous laisser aller à la sinistrose, bien au contraire. Un chrétien qui vit dans les choses de l'esprit, il ne vit pas dans la défaite. Ce que je vous dis, ça présente certains points noirs, d'accord, mais mes frères et sœurs, ce que je vais vous enseigner, si nous le vivons, ça ne nous amènera pas dans la défaite, ça nous amènera vraiment dans la victoire. Car moi je crois que dans les lieux spirituels, si nous y sommes assis, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Nous ne devons pas baisser les bras, nous devons commencer à faire comme Samuel, à obéir et peut-être à prier en disant « Seigneur, illumine les yeux de mon cœur ». Ça c'est une prière que vous découvrirez dans l'Épître aux Éphésiens, c'est au chapitre 1er. C'est une prière que vous pouvez faire. C'est la première prière. Lisons-la. Lisons-les parce qu'en crescendo, les textes que je vais vous donner vont vous amener vraiment à discerner la portée de cette guerre. Paul parle de notre position. Tout le chapitre 1er parle de notre position en Christ. Et dans cette église, qui était bien, c'était une bonne église, l'église d'Éphèse. D'ailleurs, on le voit au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Vous voyez, on voit que c'est une bonne église. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin, oui, c'est pas parce qu'il y a l'amour et la foi que ça c'est gagné, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel, et vous lirez la suite, et vous verrez que ça vaut la peine que Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Est-ce que c'est une prière que vous faites, Seigneur, mais ouvre les yeux de mon cœur. Paul dit, pas Paul, c'est Jean, enfin, c'est Jésus qui dit à l'Apocalypse, à la Odyssée, mais achète un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Beaucoup de chrétiens ne voient rien. Et c'est vrai que la désobéissance, la désobéissance. J'avais parlé de la résistance les derniers dimanches, si vous étiez là, vous en avez entendu parler, car la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. Mais s'il n'y a pas l'amour de la vérité, s'il n'y a pas l'amour de la vérité, je ne parle pas d'aimer la vérité pour les autres surtout, vous voyez, parce qu'il y a déjà, ils aiment la vérité pour les autres. Mais l'amour, vraiment l'amour de la vérité, il y a un problème archi grave. Et il y a quelque temps de ça, je priais par rapport à des situations qui me peinaient, vraiment. Pas ici, mais d'autres, des situations de notre église. Et ça me peinait vraiment. Et en priant, j'ai visualisé cette situation de Samson, lorsqu'enfin, à force d'ouvrir son cœur à Delila, il aurait mieux fait de l'ouvrir à Dieu qu'à cette brave femme qui certainement l'a éloigné vraiment. Et vous savez ce qui s'est passé. À force, eh bien l'ennemi a gagné. On lui a coupé les cheveux qui représentaient la consécration, une totale consécration. Et la première chose qu'on lui a fait, est-ce que vous vous souvenez, la première chose qui est arrivée à Samson, une fois qu'on lui a coupé les cheveux, on lui a crevé les yeux. Et je vous assure, j'étais en train de prier, mais j'ai vraiment compris que lorsque un chrétien ne se consacre pas, il est aveugle. Et ce que je vous dis, c'est pas que dans l'Ancien Testament. Regardez, c'est vrai que c'est une introduction à un sujet archi important, parce qu'un soldat, il faut qu'il y voit. Et regardez dans les Thessaloniciens, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où il est parlé de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Je ne parle pas de... Il y a des gens qui aiment Dieu. Ils aiment Dieu, mais comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, ils aiment Dieu, mais ils aiment encore plus les idoles. Ça fait qu'ils aiment Dieu, mais ils aiment encore plus la télé. Ils aiment Dieu, mais ils aiment encore plus les choses du monde. Donc ça ne sert à rien. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. C'est un texte qui nous parle justement de la fin, mais ça résume un état d'esprit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Alors regardez bien. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu parle de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Regardez bien la conséquence. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc voyez que quand on ne croit pas à la vérité, eh bien on croit des mensonges. Et on va le voir. On va le voir. Je prends l'exemple, on va prendre un exemple. Il y en a des centaines dans le Nouveau Testament. Quand l'apôtre Jacques dit, mais vous croyez que l'Écriture parle en vain, mais vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, et que celui qui se rend ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et l'auteur dit, mais vous croyez que Dieu parle en vain? Voyez comment on est aveuglé. Je ne parle pas d'aimer dans le monde si vous aimez la couture ou si vous aimez faire du jardinage, ou si vous aimez votre travail. Je ne parle pas des choses saines. Mais il y a des choses qui sont vraiment malsaines. Et je ne pense pas que vous avez besoin d'une prédication là-dessus. Tout le monde sait, je le pense. Si vous avez accepté Jésus-Christ, si vous avez le Saint-Esprit en vous, même s'il ne peut pas se manifester pleinement, nous savons tous si quelque chose est sain, S-A-I-N, ou malsain. Si vous ne le savez pas, c'est qu'il y a quelque chose de grave au niveau de votre marche avec Dieu. Un aveugle, c'est sûr, a du mal à reconnaître certaines choses. Mais nous pouvons prier et dire, Seigneur, mais donne-moi du discernement. Moi, c'est quelque chose, je le fais tous les jours. Tous les jours, je dis, Seigneur, j'achète, puisque c'est demandé, c'est une façon de payer un prix, j'achète du collier pour que tu oignes mes yeux, parce que moi, je veux voir. Est-ce que c'est important de voir les choses comme Dieu veut que vous les voyez? Parce qu'il y a des chrétiens qui vous disent, mais c'est pas grave, tous les chrétiens, ils font pareil. Oui, mais ces chrétiens-là, ils ne sont pas utiles à Dieu. Mais tu sais, j'ai besoin d'une délivrance, je fume. Mais t'inquiète pas, regarde, tel frère, là, il fume. Tu vois bien que c'est pas grave. Ben oui. Mais en attendant, je ne pense pas que ce soit notre modèle. Notre modèle, il est un peu plus haut que le frère qui fume. Je crois que notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Et que si nous commençons à chercher les modèles auprès des gens dans les églises qui ne vont pas bien, c'est la preuve que ça ne va pas bien du tout déjà dans le cœur du chrétien. Donc nous pouvons dire, Seigneur, mais donne-moi du discernement. Est-ce que c'est stipulé qu'il faut prier pour avoir le don de discernement? Eh bien oui, c'est stipulé. Donc tout chrétien doit comprendre l'importance de chercher la présence de Dieu et dire, mais Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Si vous priez, Dieu illuminera les yeux de votre cœur et vous verrez certains versets. Je peux vous dire que moi, quand le Seigneur m'a donné ce verset, que la résistance était aussi coupable que l'idolâtrie, je n'ai pas eu besoin de 3 mois pour comprendre. Je savais ce que ça voulait dire. Parce que si on ne laisse pas tomber à terre les paroles du Seigneur, je crois qu'on va grandir dans les voies de Dieu. Alors nous chantons, on le chante en plus, ça me gêne de le chanter, mais en même temps j'aime bien le chanter. Quand on chante, Dieu a une armée qui se lève. Vous aimez le chanter ce cantique? Vous le connaissez? On le chante. Bon. Dieu a une armée. Moi quand je chante ce cantique, je suis mal à l'aise. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas vrai. Alors vous allez me dire, mais monsieur Go, qui êtes-vous? D'accord. Mais est-ce que nous réalisons ce que nous chantons? Dieu a une armée qui se lève. Est-ce que le jour où Dieu trouvera une armée, une section, 30 personnes si je ne me trompe pas, à peu près, 30 personnes, une section dans une compagnie, ça fait 30 personnes. Mais même si le jour, si dans une compagnie, Dieu trouve une section ou une moitié de section qui se lève, laissez-moi vous dire qu'on va commencer à voir la différence. Quand on va voir la différence, quand j'étais à l'armée, il y avait une section, c'était des vrais guerriers. C'était impressionnant. Ils s'entraînaient tout le temps. Quand on a fait les championnats, je me rappelle, de Polynésie, de natation, je vous le dis parce que c'était impressionnant. Il y avait toutes les armées représentées, des milliers de gens. Cette section a gagné 30 médailles sur 33. Et quand on est arrivé à la caserne, tout le monde garde à vous, le capitaine, il les a insultés parce qu'il n'en avait gagné que 30 sur 33. Vous voyez un petit peu comment ça marchait. Vous êtes des incapables, vous auriez tout gagné et tout. Mais ils faisaient peur, ces gens, ils faisaient peur. C'était impressionnant. Mais il fallait voir comment ils s'entraînaient. Et je me dis, mais si nous, les chrétiens, nous nous levions dans un état de joie, parce que si ce n'est pas fait avec joie, il vaut mieux baisser la garde de suite. Je crois que c'est une grâce. Je crois que marcher dans les traces du Seigneur Jésus est une vraie bénédiction. Est-ce que quelqu'un pourrait dire, si vous vous êtes passé par la repentance, est-ce que vous pouvez dire, marcher dans les traces du Seigneur Jésus, ça va être une galère? Moi, je crois que c'est une grâce et un honneur que Dieu nous accorde. Donc la première chose à comprendre dans cette affaire de guerre, c'est notre position spirituelle. C'est notre position, on n'est pas pentecôtiste ou évangélique ou baptiste. Ce qui est important, c'est de comprendre notre position. Donc lisez les 3 premiers chapitres de Paul aux Éphésiens, vous allez voir le nombre de fois où il nous est dit que nous sommes en Christ, là aussi. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire être en Christ. Et la deuxième chose, c'est comment nous devons combattre. Comment nous devons comprendre le combat spirituel. Comment cette bataille, on va la gagner. Parce qu'on va la gagner. Si vous marchez avec le Seigneur, vous gagnerez vos batailles. Eh bien, il faut prendre position pour le Seigneur. Ça, c'est quelque chose d'impératif. Je prends position pour le Seigneur. Je ne marche pas à moitié dans le monde, car il est dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Si vous marchez dans le monde, vous ne recevrez pas l'esprit de vérité parce que Dieu verra que ça servirait strictement à rien. Donc, il y a ceux qui obéissent. Ça aussi, on va voir que l'obéissance, c'est quelque chose de vital. L'obéissance de cœur. Paul dit aux Romains, vous avez obéi de cœur. Parce que si je commence à faire les choses, bon, je vais les faire parce que je comprends qu'il faut... Je le répète et je le dis sérieusement, ça ne sert à rien. Si vous le faites, faites-le de bon cœur. Oui, nous devons comprendre quelle est notre position, être en Christ. Vous lirez les 3 premiers chapitres et vous regarderez le nombre de fois, on peut faire un petit essai, le nombre de fois où il est dit en Christ. Alors on va prendre le premier chapitre. Moi je vous dis, j'ai donné comme titre à l'épître aux Éphésiens, j'ai donné un titre moi personnellement, en Christ, en lui. Et regardez, Éphésiens 1, regardez verset 4. En lui, vous voyez? Vous allez voir que tout est en lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, ou en lui, c'est pareil. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, ou en lui, c'est pareil, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est en lui. En lui, nous avons la rédemption, etc., etc. Et vous lirez, vous verrez, c'est en lui. Les choses du Seigneur ne doivent pas être intellectuelles, théologiques, apprises par cœur, elles doivent être expérimentées. C'est peut-être le mot que nous devons retenir ce soir. Est-ce que je vis dans l'expérience ou juste dans la connaissance intellectuelle? Ce que j'apprends, est-ce que je l'apprends intellectuellement ou est-ce que je l'expérimente? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dimanche par rapport à Paul, dans ce qu'on a lu tout à l'heure, qui prie, il est en prison. Est-ce qu'il était dans la défaite ou il était dans la victoire, d'après vous? Il était dans une victoire totale. Il était en train d'enseigner ce que toutes les églises de tous les siècles avaient besoin d'apprendre en ce qui concerne cette fameuse guerre spirituelle. Moi, je peux vous dire que Paul, il n'était pas assis dans une prison, il était assis dans les lieux célestes. Il vivait dans la victoire. Les chrétiens charnels, les chrétiens très superficiels, devaient dire le pauvre, il a perdu son ministère, il est là en prison. Il n'était pas en prison, il était dans la volonté de Dieu. Et le résultat, c'est qu'il enseigne. Et ce soir, nous sommes au bénéfice de cet homme, de l'enseignement de cet homme, parce qu'il était assis dans les lieux célestes. Alors ne vous morfondez pas si vous êtes dans une épreuve. Dans cette épreuve, dites, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Si vous êtes assis dans les lieux célestes, l'épreuve se transformera en victoire. Quand Paul parle aux vainqueurs, il n'y a pas de défaite dans les lieux célestes. Vous comprenez bien que quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes, quelle que soit l'épreuve ou la bénédiction qu'il traverse, il est dans la victoire. Et je vous le dis parce que c'est évident, Paul était vraiment dans la victoire. La preuve, c'est ce qu'il a écrit dans cette prison est devenu une lettre de la Bible, donc une parole de Dieu archi-inspirée. Donc ça vous montre combien nous avons besoin de réagir à ces choses. Il enseigne, on en a besoin. Je ne sais pas si vous le réalisez, enfin, moi, en tous les cas, moi, j'en suis confondu. On a besoin de comprendre, d'expérimenter quelle est notre position. Est-ce que je suis vraiment en Christ? Ou est-ce que je résiste à Dieu? Car vous comprenez bien que si je passe du temps devant ma télé et que je dois devant ma PlayStation, je demandais à un jeune ces jours-ci, à un jeune de l'église, vous voyez. Est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui? Ce n'est pas mon truc de poser des questions comme ça. Mais je le fais, je l'ai fait volontairement. Non. Est-ce que tu l'as lu hier? Non. Est-ce que tu l'as lu avant-hier? Non. Est-ce que tu as passé des heures devant ta télé? Oui. C'est tout. Et je ne veux, pas le juger. Parce que je suis là pour vous aimer, pour vous aider, etc. Ce n'est pas du tout dans mon intention de jouer l'inquisition. Ce n'est pas du tout mon style. Mais c'est révélateur. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se détendre. Est-ce qu'on a le droit de se détendre? Bien sûr, mais il faut que ce soit des choses saines. Mais si même des choses saines nous empêchent de nous tenir devant la face de Dieu, laissez-moi vous dire que ces choses-là nous éloigneront du Seigneur quand même. Oui, il n'y a aucune défaite dans les lieux célestes. Vous lirez ce chapitre, ces 6 chapitres. Peut-être ça sera le livre que vous connaîtrez le mieux de la Bible, mais je crois que ça vaut la peine que vous le connaissiez. Cette épître, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Elle nous révèle que Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Vous le croyez? Nous, on parle, il faut prêcher sur la croix. Je pense que c'est la prédication de la croix qui nous amènera à être encore plus sensibles aux choses spirituelles. Et que les chrétiens ont besoin d'entendre et de réentendre des prédications sur la croix. Car la croix nous approche de Dieu. D'ailleurs, il est écrit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, s'il y a bien des gens qui ont besoin d'entendre parler de la croix, c'est bien les chrétiens. Mais cette épître nous révèle, au-delà du fait que Jésus est mort sur la croix, que depuis l'ascension, il est assis sur son trône de gloire, couronné de gloire et d'honneur. Et cette épître commence par le fait que Jésus est assis dans les lieux célestes. Et cette épître se termine avec le fait que les chrétiens doivent rentrer dans ce combat spirituel. Mais ça commence donc ce combat spirituel commence par quelle exhortation? Au verset 10. Au verset 10, on n'aura pas le temps ce soir de voir tout parce que je vois que le retourne. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 10? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alors je m'adresse aux chrétiens ce soir. Est-ce que vraiment vous allez prendre cette parole à cœur comme Samuel le faisait lorsqu'il écoutait une parole de Dieu, il ne la laissait pas tomber? C'est pour ça que j'ai choisi ce texte. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je pense que c'est le Seigneur qui a voulu que je le prenne. pour que nous montrions combien nous pouvons grandir dans les voies de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous, alors, c'est dans une position spirituelle, c'est dans le Seigneur. C'est ça qui est important que nous le comprenions. Dans le Seigneur, il faut vivre en lui. Lisez le nombre de fois, je me répète, où il est écrit « en lui ». Regardez le nombre de fois et vous comprendrez combien c'est important que nous expérimentions cette vie en lui. Jésus dira « mais demeurez à moi et je demeurerai en vous ». Ce n'est pas de temps en temps « tiens à l'église, je suis spirituel, puis après je rentre à la maison et je regarde des âneries ou je fais n'importe quoi, ou je regarde des blagues ». L'autre jour, il y a un chrétien qui me dit « vous voulez pas que je vous raconte une blague ?» Je dis « non, je veux pas. Je veux pas. J'ai pas envie. » Je ne vois pas Jésus en train de se marier devant une blague. Vous ne voulez pas que je vous raconte une blague? Non, mais je dis, mais franchement. J'espère que vous me comprenez. Je pense vraiment que quelqu'un qui va rester en Jésus-Christ, il ne va pas devenir mystique, ni légaliste. Comme je l'ai dit dimanche, il ne va pas imposer ses convictions aux autres. Ça, c'est une chose que Dieu ne bénit pas. C'est quand on impose ses convictions aux autres. Eh bien, tu sais, moi, je fais plus si, hein. Eh bien, tu devrais faire pareil. Eh bien, ça, c'est pas spirituel du tout. Si Dieu vous montre quelque chose, faites-le. Si Dieu ne vous l'a pas montré, on n'a pas à imposer ses convictions aux autres. Je vous en supplie de grâce, si vous êtes marié ou si vous avez un conjoint, un fiancé ou quelqu'un de proche, s'il vous plaît de grâce, n'imposez pas vos convictions aux autres. Vivez-les-vous et vous allez voir que les autres seront entraînés dans les convictions que vous avez. Donc, si nous vivons en lui, nous serons dans le Seigneur et nous serons assis avec lui. Alors regardez avec moi. C'est vraiment le début de l'étude. Il fallait cette introduction pour comprendre qu'il faut être en lui. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, donc il est dit que Jésus est assis dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 1er, verset 20. Regardez bien. Éphésiens chapitre 1er verset 20, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus, alors regardez bien, de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle à présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc cette puissance, elle est à Dieu, mais il l'a donnée à l'Église. Elle est sous ses pieds. Les pieds, c'est nous, puisque nous sommes le corps de Christ. Le chapitre 2 commence, alors ça, là, si on est en haut, au chapitre 2, on est vraiment en bas, parce qu'il est parlé de notre péché, comment nous étions dans le péché, et au verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, dont le diable est présenté, comme le maître de la puissance de l'air, c'est pour ça qu'il y a tout ce chaos sur la terre. Mais regardez au verset 6. Il nous a alors il faut méditer le texte. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et vous avez la première clé de la position qui doit être la nôtre. Si nous vivons dans le péché, ne croyons pas un instant que nous allons être assis dans les lieux célestes. Un chrétien qui veut dans le péché, il peut prendre les armes qu'il voudra, il n'est pas assis spirituellement. Alors je répète, c'est spirituel, ne vous attendez pas à vous retrouver assis sur un fauteuil dans le ciel. C'est une position spirituelle. Quelqu'un qui vit dans le péché, il n'est pas assis dans les lieux célestes. Il est en train de résister à Dieu. Il est ami du monde. Et il y a plein de chrétiens qui ne se rendent même pas compte, c'est l'aveuglement. C'est ce que Jésus dit à l'Odyssée, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Et pourtant, l'église de l'Odyssée, son seul défaut, c'est qu'elle est tiède. Elle est tiède. Et le Seigneur lui dit, tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre, misérable et nu. Parce qu'elle est devenue tiède. Elle est devenue tiède, elle est bien à l'église, mais elle est bien dans le monde. Et ainsi de suite. Mes frères et sœurs, nous devons commencer à prendre conscience de notre position. Et soyons sérieux, si nous vivons dans le péché, je ne parle pas d'un péché involontaire que l'on pourrait commettre de temps à autre, parce que c'est vraiment involontaire, je parle du péché volontaire. Voilà, moi je vais. Mais Dieu pardonne. Alors écoutez, là, c'est du cinéma. Il faudra que je vous l'explique. Pour ça, peut-être méditer la première épître de Jean, qui parle vraiment de la communion avec Dieu. Si vous voulez être au clair sur la communion avec Dieu, priez avant de le lire et méditez la première épître de Jean. Méditez-la, sincèrement. Mais commençons à comprendre notre position. Notre position doit être en Christ, qu'en Christ. Et nous devons commencer à comprendre que lorsque nous demeurons en Dieu, Dieu demeure en nous. Si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors on pourrait prendre les 20, 30 textes qui se recoupent et qui indiquent bien que quand on demeure dans le Seigneur Jésus-Christ, on demeure en lui. Alors, si nous sommes assis dans les lieux célestes, si nous vivons dans l'obéissance, dans cette obéissance de cœur joyeuse, en disant ça, je veux me séparer de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, ce qui me sépare de Dieu. Ça, c'est quelque chose que chacun peut faire. Dans le progrès où nous en sommes, qui que vous soyez, même si ça fait 15 jours que vous êtes converti, ou que ça fasse 40 ans, ou 50, ou 100, ou 200, c'est pas grave. Vous pouvez demander à Dieu qu'il vous montre ce que vous avez à faire. Car nous avons un Dieu puissant. Je lisais le psaume 24 ce matin. Dieu est puissant dans les combats. Ça vous plaît, ça, de le lire? L'Éternel est puissant dans les combats, psaume 24, verset 8. Ce n'est pas nous qu'on va le faire. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Nous, on ne peut rien faire par nos propres forces. C'est pas nous qu'on le fera. C'est pour ça qu'il est appelé le bon combat de la foi. Mais ne soyez pas forts dans nos plans. Ne soyons pas, nous, par exemple, on pourrait dire, tiens, c'est chouette, on va peut-être avoir une grande église. Ne soyons pas forts là-dedans. C'est bien parce que je pense que c'est la volonté de Dieu. Ça correspond au plan de Dieu. Mais ne soyons pas forts par rapport à un plan, par rapport à un projet, par rapport à des circonstances, par rapport à des trucs qui sont bien, etc. Soyons forts dans le Seigneur. Vous entendez, mes frères et sœurs? Parce qu'il y a trop de chrétiens qui disent « Oh, c'est super, j'ai fait telle expérience. Oh, c'est génial, si tu savais. » Vous les revoyez 3 jours après, ça va? Ah, mais non, je suis découragé. Vous voyez, les gens, ils sont forts lorsqu'ils font des expériences. La Bible n'a pas dit « Soyez forts quand on fait des expériences. » La Bible, soyez forts dans le Seigneur. Et vous comprenez la différence. Et vous comprenez pourquoi des chrétiens sont en haut et une foi en bas. Alors, bien sûr, peut-être quelqu'un va dire « Mais monsieur Gault, vous ne nous enseignez rien ce soir. Tout ce que vous dites, on le sait. » Eh bien, alors, comment ça se fait que tant de chrétiens restent faibles? Eh bien, parce qu'on ne l'expérimente pas. On le sait. Peut-être que ce soir, je ne vous ai rien appris. Tant mieux. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que si nous ne voyons pas Dieu faire certaines choses, c'est que nous ne le vivons pas. Nous le savons, nous le croyons, nous le prêchons, nous en sommes convaincus, mais il faut l'expérimenter. Et je vais terminer, parce que je vois que le retourne, je vais terminer avec un témoignage. Il y a 2 mois de ça, une nuit, je ne dormais pas par rapport à une situation. Je ne dormais pas et je priais. Je priais par rapport à l'Église parce que je pense que Dieu veut nous donner plus que ce que l'on a. Je priais et je disais, Seigneur, j'étais dans mon lit, j'étais assis, j'étais parti dans une chambre à côté pour ne pas réveiller Isabelle. Et je priais, j'ai dit, Seigneur, que ta vie se manifeste dans l'Église. Est-ce que c'est une prière qu'on peut faire? Seigneur, que ta vie se manifeste. Que ta vie, la tienne, se manifeste. Et j'ai prié pendant, je ne sais pas, 5 minutes, un quart d'heure, je ne sais rien. Et puis j'ai ouvert ma Bible, et comme par hasard, je suis tombé sur 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4. Alors, j'ai lu à partir du verset 7. Mais on va lire le verset qui nous intéresse, parce que vraiment le Seigneur m'a parlé. Vous savez, moi j'aime pas, en plus j'aime pas cette expression « Dieu m'a parlé ». Mais laissez-moi vous dire que par sa parole, j'ai vraiment compris quelque chose. 2 Corinthiens 4, verset 10. Alors, si vous n'êtes pas vraiment enraciné dans les choses de Dieu, vous n'allez peut-être pas le comprendre ce verset. Priez pour que Dieu vous aide à le comprendre. Mais regardez ce que Paul dit. « Portant toujours avec nous, dans nos corps, pas de temps en temps, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Et je vous assure que je ne me suis pas endormi. Parce que j'avais dit, Seigneur, mais que ta vie se manifeste. et j'ouvre la Bible et je tombe là-dessus. Afin que la vie de Jésus soit manifestée, il faut toujours porter dans notre corps la mort de Jésus. C'est-à-dire qu'il faut abandonner tout ce qui est péché. Il faut l'abandonner entièrement. C'est ça, porter la mort. C'est abandonner. Et quand dans Romains, au chapitre 6, vous savez, on l'utilise pour les gens qui vont prendre le baptême. Quand quelqu'un va prendre le baptême, on lui dit, alors on reprendra ce sujet la prochaine fois. Mais je voulais aller ce soir beaucoup, beaucoup plus loin, jusque dans la vérité. Mais ça fait rien, on prend le temps. Je veux qu'on le fasse consciencieusement. Regardez dans Romains. Dans Romains, au chapitre 6, j'espère que vous notez ces textes, parce que ce sont ces textes qui m'ont amené à faire cette étude et qui m'ont amené à réaliser combien moi j'étais loin du Seigneur. Oui, votre pasteur, j'en ai honte, mais tant pis, il faut le dire quand même. Combien j'étais loin de cette bénédiction et de cette victoire. Et pourtant, je pouvais la prêcher. Ça, c'est sûr que pour la prêcher, mais ça, c'est facile pour un pasteur qui prêche depuis 30 ans de prêcher. C'est autre chose de le vivre. Et dans Romains, au chapitre 6, quand quelqu'un va prendre le baptême, nous l'amenons au chapitre 6 des Romains pour expliquer, Romains chapitre 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés, que nous avons été baptisés ?» Donc, il explique que avant d'entrer dans la vie, ce qu'on a lu dans les Corinthiens, afin que la vie de Jésus soit manifestée, car c'est ça que Dieu veut, que sa vie se manifeste au travers de nos vies, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut que nous soyons baptisés, mais baptisés en sa mort. Alors on dit aux gens, voilà, maintenant vous étiez pécheurs, vous avez demandé pardon, et voilà, vous êtes baptisés en sa mort. Mais c'est autre chose, on va le voir. Croyez-moi que c'est autre chose. C'est le désir de dire, écoute Seigneur, moi je veux que ta vie soit manifestée au travers de la mienne. Est-ce qu'il y en a? Ne levez pas la main, ne répondez pas, mais répondez au Seigneur, tout simplement dans votre cœur. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous ici ce soir qui aimeraient vraiment qu'au travers de leur vie, de leur esprit, le Saint-Esprit se manifeste au travers d'eux? Est-ce qu'il y en a des gens? Eh bien, ça passera par cette affaire d'être baptisé en sa mort. C'est-à-dire, ça, je ne veux pas le faire, je ne veux pas le vivre. Quand je vois des chrétiens, tout à l'heure, Jérémie me parlait d'une situation qu'on lui a rapportée, que le conseil d'administration dans une église avait été grossier, vulgaire, insultant envers le pasteur. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai, Jérémie? Vous vous rendez compte que dans des conseils d'administration d'église, il y a des gens qui ne sont pas convertis? Moi, je dis que quand quelqu'un est grossier, ou s'il n'est pas converti, eh bien, il est à 50 000 km du Seigneur. La grossièreté, pour moi, c'est révélateur. C'est révélateur. Ce sont des choses que l'on devrait comprendre de suite quand on se convertit. Alors, je veux aborder ces choses. En même temps, je veux aborder la première arme. Quand il est dit, revêtez la vérité pour ceinture. Et je voudrais que vous compreniez que la vérité, ça se vit. La vérité, ça ne se prêche pas. La vérité, ça se vit. Et alors, je vois que l'heure a tourné et il faut absolument que j'arrête. Mais, mes frères et sœurs, nous tous qui avons été baptisés, si vous avez pris le baptême par immersion, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et la vie, vous l'avez lu avec moi, la vie de Christ ne peut se manifester que si nous portons, alors je prendrai deux études s'il faut pour l'expliquer, mais clairement et bien, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde jamais, parce que moi je crois que le diable ne veut pas qu'on l'aborde. Le chapitre 6 des Romains, c'est sur les étagères des facultés de théologie, et c'est tout. Mais je crois qu'il faut que ça soit dans le cœur des chrétiens d'une manière véritable, expérimentale. Seigneur, je veux vraiment vivre cette mort afin que ta vie se manifeste. Alors, je regrette, je suis obligé de terminer, mais j'aimerais, mes frères et sœurs, que nous puissions vraiment prier pour cette affaire, que le Seigneur nous éclaire et que nous ne résistions pas au Seigneur en vivant dans le péché, car le péché nous aveugle. Vous pouvez me dire ce que vous voudrez. Le péché, c'est biblique et super biblique, le péché nous aveugle. Et c'est pour ça que lorsque le diable il se réjouit, lorsque les chrétiens se gargarisent de tout ce que le monde peut offrir, voilà, de tout ce que des programmes télé, toutes ces choses-là, certaines ne sont pas mauvaises, mais moi je vous dis que ça nous souille. Et comment penser que quelqu'un qui est souillé va pouvoir être utilisé par Dieu pour manifester sa puissance. Dieu peut lui accorder une certaine mesure de grâce, ça j'en suis conscient. J'en suis conscient que même quelqu'un qui vit dans le péché, Dieu peut lui apporter sa grâce. Mais ne nous attendons pas à ce que quelqu'un de soit souillé, soit utilisé par le Saint-Esprit pour manifester la vie de Christ. Alors, j'aurais aimé aller beaucoup plus loin parce que ma conclusion, elle était super bien faite. Non, elle était intéressante, elle n'était pas bien faite, mais elle était intéressante parce que c'était par rapport à la vérité et je voulais vous apporter ce que j'avais reçu dans mon cœur, mais je préfère le faire consciencieusement, l'heure a déjà tourné, peut-être que vous allez partir vite vite sans saluer, c'est pas grave, gardez ces choses dans votre cœur, j'aimerais qu'on prie le Seigneur, que vous puissiez vraiment prier pour moi. C'est un sujet que Dieu m'impose, c'est un sujet très très important sur la façon dont on va comprendre qu'il y a une guerre. Une guerre qui est déjà gagnée en plus. Si nous vivons dans l'esprit, nous avons déjà gagné cette guerre. Alors, recueillons-nous et prions le Seigneur. Alors, je vous pose la question, alors que nous sommes recueillis, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église qui dit « Moi, je veux que la vie de Jésus se manifeste au travers de la mienne. Je suis le temple du Saint-Esprit et dans le temple, il faut qu'il y ait de la sainteté. » On le disait tout à l'heure dans la prière, Jésus a dit « Ma maison sera une maison de prière ». Juste avant, il a chassé tous ces vendeurs du temple et après, il a guéri des aveugles et des boiteux. Il ne peut pas y avoir la guérison si au préalable, dans le temple que nous sommes, il n'y a pas cette sanctification. La volonté du Seigneur, vous le savez par le Notre Père, ne s'accomplit que lorsque le nom du Seigneur est sanctifié, lorsque Jésus règne, oui, on peut dire que ta volonté soit faite. Alors, je suppose qu'il y a dans l'Église des frères et des sœurs qui sont vraiment soucieux d'avoir une vie utile. Eh bien, on va prier, s'il vous plaît. Tous ceux qui se sentent concernés, qui disent, moi je veux, quand je passerai devant Dieu, avoir eu ce témoignage, d'avoir pu manifester la vie de Christ au travers de la mienne. Je le répète, ça passe par une mort à soi-même, par un renoncement total des choses qui sont mauvaises et malsaines. Seigneur Jésus, notre Père, nous croyons que tu nous as laissé dans ta parole tout ce que nous avions besoin de savoir pour devenir ces vainqueurs, ces hommes fortifiés dans le Seigneur. Et si tu demandes aux hommes d'être fortifiés en toi, c'est qu'on peut l'être. Seigneur, nous voulons vraiment être assis dans les lieux célestes. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où nous avons accepté le péché qui nous a maintenus dans la puissance des ténèbres. Seigneur, nous ne voulons pas être assis dans les ténèbres. Nous voulons être assis dans les lieux célestes, dans l'obéissance joyeuse, dans la consécration de cœur, Seigneur Jésus. Tu savais qui ce soir viendrait dans ce lieu. Et tu as certainement voulu parler à un frère, à une sœur, à plusieurs et à moi-même. Alors Seigneur, s'il te plaît, apprends-nous à être forts en toi, car c'est ta volonté. Seigneur Jésus, que cet épître aux Éphésiens soit véritablement cet éclairage qui va nous permettre de comprendre ta volonté. Seigneur, aide-nous, aide l'Église. Seigneur, s'il te plaît, aide l'Église, toute l'Église, à entrer dans cette vie nouvelle du bon combat de la foi, afin que nous puissions te dire que ta volonté soit faite. Merci Seigneur Jésus. Amen.